Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale, le yoga de l'amour divin traduit de l'anglais par mère. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 2, les mobiles de la dévotion. Toutes les religions partent de la conception d'un pouvoir ou d'une existence plus grande et plus haute que notre petit moi mortel limité, d'une pensée d'un culte rendu à ce pouvoir et d'une obéissance à sa volonté, à sa loi ou à ses ordres. Mais la religion commence par creuser un gouffre incommensurable entre le pouvoir ainsi conçu, adoré, obéi et l'adorateur. À son sommet, le yoga abolit le gouffre, car qui dit yoga dit union. Nous arrivons à l'union avec cela par la connaissance, car à mesure que nos premières conceptions obscures se clarifient, s'élargissent, s'approfondissent, nous finissons par reconnaître que cela est notre moi le plus haut, l'origine et le support de notre être et vers ce quoi nous tendons. Nous arrivons à l'union avec cela par les œuvres, car à partir d'une simple obéissance, nous finissons par identifier notre volonté à sa volonté, puisque c'est seulement dans la mesure où notre volonté s'identifie à ce pouvoir qui est sa source et son idéal qu'elle peut devenir parfaite et divine. Nous arrivons à l'union avec cela par un culte aussi, car la pensée et les actes d'un culte lointain finissent par se changer en un besoin de proche adoration qui se change en une intimité d'amour, et le couronnement de l'amour est l'union avec le bien-aimé. Le yoga de la dévotion part de cet élargissement du culte et par cette union avec le bien-aimé trouve son suprême couronnement. Tout les instincts et tous les mouvements de notre être commencent par s'appuyer sur les mobiles ordinaires de notre nature humaine inférieure, et ces mobiles sont tout d'abord mélangés, égoïstes, puis ils se purifient et s'élèvent. Ils deviennent un besoin intense et spécial de notre nature supérieure et sont tout à fait indépendants des résultats que nos actes peuvent obtenir. Finalement, ils se subliment et deviennent une sorte d'impératif catégorique de notre être, et par notre obéissance à cet impératif, nous parvenons à un suprême quelque chose qui existe en soi, au-dedans de nous, et qui n'a jamais cessé de nous attirer à lui, d'abord par l'heure de notre nature égoïste, puis par une influence beaucoup plus haute, plus large, plus universelle, jusqu'au jour où nous sommes capables de sentir son attraction directe, qui est la plus forte et la plus impérieuse de toutes. Nous devons rejeter les tuteurs de notre faiblesse, les mobiles de l'ego, les leurres de notre nature inférieure, afin de pouvoir mériter l'union divine. Confrontés par le sentiment d'un pouvoir, ou peut-être de nombreux pouvoirs plus grands et plus haut que lui-même qui domine, influence ou gouverne sa vie, dans la nature, l'homme répond naturellement par les premiers sentiments primitifs d'un être naturel assailli par les difficultés, les désirs et les dangers de cette vie, par la peur et l'intérêt. Le rôle énorme que jouent ces mobiles dans l'évolution de l'instinct est indéniable. En fait, l'homme, étant ce qu'il est, ce rôle ne pouvait guère être moindre. Mais même quand la religion a progressé assez loin sur le chemin, nous voyons ces mobiles survivre encore activement et jouer un rôle suffisamment grand, justifié et appelé qu'ils sont par la religion elle-même pour renforcer son autorité sur l'homme. La peur de Dieu, dit-on, ou la peur des dieux, pourrait-on rajouter, par respect pour la vérité historique, est le commencement de la religion. C'est une demi-vérité à laquelle les recherches scientifiques ont attribué une importance exagérée lorsqu'elles ont voulu retracer l'évolution de la religion dans un esprit généralement critique et plus souvent hostile que sympathique. Mais la peur de Dieu n'est pas l'unique mobile, car même à son état le plus primitif, l'homme n'agit pas seulement par peur, mais poussé par deux jumeaux, la peur et le désir. La peur des choses déplaisantes et malfaisantes et le désir des choses plaisantes et bienfaisantes. Donc, par peur et par intérêt. Tant que l'homme n'a pas appris à vivre plus en son âme et seulement d'une façon secondaire, dans l'action et dans les réactions des choses extérieures, la vie est, principalement pour lui et d'une manière accaparante, une série d'actions et de résultats, de choses à désirer, à poursuivre, à gagner par l'action, et des choses à redouter, à fuir, mais qui, néanmoins, peuvent retomber sur lui comme résultat de l'action. Et ce n'est pas seulement par sa propre action, mais par celle des autres aussi, et de la nature autour de lui qui peut attirer ces choses bénéfiques ou maléfiques. Par conséquent, dès qu'il commence à sentir derrière tout cela un pouvoir qui peut influencer ou déterminer l'action et les résultats, il le reçoit comme un dispensateur de bienfaits, de souffrances, capable ou même désireux, dans certaines conditions, de l'aider ou de le nuire, de le sauver ou de le détruire. Il conçoit ce pouvoir comme doté d'impulsions naturellement égoïstes dans la partie la plus primitive de son être, semblable aux siennes, bienfaisante quand celui-ci est content, malfaisante quand il est offensé. Le culte est donc un moyen de propitiation par des dons et des supplications par la prière. Il met Dieu de son côté en le priant et en le flattant. Quand il a la mentalité plus évoluée, il conçoit que le mouvement de la vie repose sur un certain principe de justice divine qu'il interprète toujours selon ses propres idées et son caractère, et qu'il voit comme une sorte de version grandiose de sa justice humaine. Il conçoit une morale du bien et du mal, considère la souffrance, les calamités et tous les événements déplaisants comme une punition de ses péchés, et le bonheur, la bonne fortune et tous les événements plaisants comme une récompense de sa vertu. Dieu lui apparaît comme un roi, un juge, un législateur, un exécuteur de la justice. Mais il le considère toujours comme une sorte d'homme magnifié et s'imagine que si sa propre justice humaine peut être flétrie par ses prières et ses propitiations, la justice divine de même peut être flétrie de semblable manière. Pour lui, la justice est une récompense ou une punition. Et la justice de punition peut être adoucie par la pitié pour le suppléant, de même que la récompense peut être augmentée par des faveurs et des bontés spéciales, telles que le pouvoir peut toujours en octroyer à ses fidèles et ses adorateurs lorsqu'il est content. Outre ces mobiles, il existe aussi ceux qui viennent du développement des sentiments personnels. D'abord, le respect mêlé de crainte que l'on éprouve naturellement pour ce qui est vaste, puissant et incalculablement au-delà de notre nature par l'impénétrabilité de ses desseins et l'étendue de son action. Puis la vénération et l'adoration que l'on éprouve pour ce qui est le plus haut que soi-même de par sa nature ou sa perfection. Car bien que l'on s'en tienne surtout à l'idée d'un Dieu pourvu de qualités à la manière de la nature humaine, il s'y mélange avec le temps où s'y superpose de plus en plus la conception d'une omniscience, d'une omnipotence, d'une perfection mystérieuse et toute différente de celle de notre nature. Un vague mélange de tous ces mobiles, diversement raffinés, souvent mitigés, plus ou moins subtilisés ou fardés, constituent les 19e de la religion populaire. Le dernier 10e colore le reste et y infuse les idées les plus nobles, les plus belles, les plus profondes sur le divin, comme celles que les penseurs d'une spiritualité plus haute ont pu faire entrer dans les conceptions religieuses primitives de l'humanité. Jusque-là, toutes les expériences yogiques sont d'accord. Mais la religion et le yoga de la bhakti vont beaucoup plus loin. Ils attribuent à cet être une personnalité et des relations humaines avec les êtres humains. Dans le yoga de la bhakti, comme dans la religion, l'être humain s'approche du divin par le truchement de son humanité avec ses émotions humaines, comme s'il s'approchait de ses semblables avec des sentiments plus intenses et plus élevés. Qui est plus le divin est également censé répondre d'une manière qui corresponde à ses émotions. Tout le problème tourne autour de cette possibilité de réponse, car si le divin est impersonnel et sans forme, sans relation, pareille réponse n'est pas possible et toute approche humaine devient une absurdité. Au contraire, nous devons nous déshumaniser, nous dépersonnaliser, annuler notre être humain et toutes sortes d'êtres nous ne pouvons nous approcher de lui dans aucune condition, ni par aucun autre moyen. L'amour, la peur, la prière, les louanges et le culte d'une impersonnalité qui n'a aucune relation avec nous, ni avec quoi que ce soit dans l'univers, et qui n'a aucune forme que notre pensée puisse saisir, sont évidemment une sottise irrationnelle. Le bouddhisme n'est devenu une religion populaire que le jour où le Bouddha a pris rang de divinité suprême en devenant l'objet du culte. Ainsi, pour qu'un yoga de la dévotion ait la moindre possibilité d'exister, nous pouvons supposer premièrement que l'existence suprême n'est pas une abstraction ni un état d'existence, mais un être conscient. Deuxièmement, qu'il vient à notre rencontre dans l'univers et qu'il est immanent d'une façon quelconque, autant qu'il en est la source. Sinon, il nous faudrait sortir de la vie cosmique afin d'aller à sa rencontre. Troisièmement, il est capable d'avoir des relations personnelles avec nous et par conséquent, qu'il ne doit pas être incapable de personnalité. Finalement, que si nous nous approchons de lui avec nos émotions humaines, nous recevons une réponse de même nature. Cela ne veut pas dire que la nature du divin soit exactement la même que notre nature humaine, sauf qu'il est d'une échelle plus grande, plus pure, de certaines perversions, ni que Dieu soit un homme magnifié, ni un homme idéal. Dieu n'est pas et ne peut pas être un égo limité par des qualités comme nous le sommes dans notre existence, dans notre conscience normale. Mais par contre, notre conscience humaine doit certainement avoir son origine en le divin et dérivé de lui, et bien que les formes qu'elle prend en nous soient différentes de celles de la conscience divine. Parce que nous sommes limités par l'ego, parce que nous ne sommes pas universels, pas supérieurs à notre nature, pas plus grands que nos qualités et leurs activités comme l'est le divin. Cependant, nos émotions et nos impulsions humaines doivent avoir derrière elles une vérité en lui, dont elles sont des formes limitées et donc perverties le plus souvent ou même dégradées. En nous approchant de lui, par notre être émotif, nous nous approchons de cette vérité. Elle descend à nous pour répondre à nos émotions et les soulever jusqu'à elle. Par elle, notre être émotif s'unit à lui. En deuxième lieu, cet être suprême est aussi l'être universel et toutes nos relations avec l'univers sont des moyens de nous préparer à rentrer en lui, avec lui. Toutes les émotions par lesquelles nous comprenons aux sollicitations, nous répondons aux sollicitations de l'existence universelle, sont en fait dirigées vers lui. Tout d'abord dans l'ignorance, mais quand nous les dirigeons vers lui, avec une connaissance grandissante, nous entrons en relation plus intime avec lui. Et tout ce qui est faux et ignorante en elle finit par tomber à mesure que nous nous approchons de l'unité. Il répond à toutes nos émotions en nous prenant au niveau du progrès et où nous en sommes. Car si notre approche imparfaite ne recevait aucune espèce de réponse ni d'aide, jamais une relation plus parfaite ne pourrait s'établir. Tels les hommes s'approchent de lui, tels il les accepte, et il répond à leur bhakti par l'amour divin. Tatyava bhajyate. Quelles que soient les formes d'être, quelles que soient les qualités que les hommes lui prêtent par ses formes et par ses qualités, il les aide à se développer. Il encourage ou gouverne leur progrès et les attire à lui par leur chemin, droit ou tortueux. Ce qu'il voit de lui est une vérité, mais une vérité qui se présente à eux au niveau de leur être et de leur conscience. Partiellement, d'une façon déformée et non au niveau de sa propre réalité supérieure, non sous l'aspect qu'elle revêt quand nous devenons conscients de la divinité complète. C'est cela qui justifie les éléments frustres et primitifs de la religion et aussi ce qui les condamne à l'éphémère et au transitoire. Ils sont justifiés parce que derrière eux existe une vérité du divin et c'est ainsi seulement que cette vérité du divin peut être absorbée à ce niveau du développement de la conscience humaine et être aidée à progresser. Ils sont condamnés parce que si nous persistons toujours dans nos conceptions frustes et ces relations primitives avec le divin, nous manquons l'union plus intime dont tous ces commencements grossiers était le premier pas, si défectueux fût-il. Toute la vie, avons-nous dit, est un yoga de la nature. Ici, en ce monde matériel, la vie est l'effort de la nature pour sortir de l'inconscience première et revenir à l'union avec le divin conscient dont elle est issue. Le mental de l'homme, c'est-à-dire l'instrument façonné par la nature avec la religion, devient conscient du but de la nature en lui et il répond à son aspiration. Même la religion populaire est une sorte de yoga de la dévotion ignorante. Mais la dévotion religieuse ne devient vraiment ce que nous appelons un yoga que quand, dans une certaine mesure, son mobile devient clairvoyant. Quand il voit que l'union est son but et que l'amour est le principe de l'union. Et donc, quand elle essaye de vivre l'amour et de perdre dans l'amour son caractère séparatiste. Une fois ceci accompli, le yoga fait le pas décisif et sa fructification. Une fois ceci accompli, le yoga fait le pas décisif et sa fructification est certaine. Par conséquent, les mobiles de la dévotion doivent d'abord se diriger d'une façon absorbante et de plus en plus vers le divin, puis se transformer pour se débarrasser de leurs éléments plus terre-à-terre et finalement prendre position dans un amour pur et parfait. Tous les éléments qui ne peuvent pas coexister avec l'union parfaite de l'amour doivent finalement tomber. Seuls doivent rester ceux qui peuvent devenir une expression de l'amour divin et un moyen de goûter l'amour divin. Car l'amour est la seule émotion en nous qui peut être entièrement sans motif et exister en soi. L'amour n'a besoin d'aucun autre motif que l'amour. En définitive, toutes nos émotions naissent de la recherche de la félicité et de la possession de la félicité, ou d'une frustration de cette recherche et d'un manque de félicité que nous avions possédé et que nous croyons avoir saisi. Or, par l'amour, nous pouvons entrer directement en possession de la félicité existant en soi de l'être divin. En vérité, l'amour divin est cette possession même et pour ainsi dire le corps de l'Ananda. Alors aujourd'hui, je continuerai la semaine prochaine les mobiles de la dévotion que Sri Aurobindo a écrit dans la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture divinement instructive. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, merci Stefano, merci Ganga Lakshmi.